Partie 1. Washington, D.C. Chapitre 1. Vous auriez pensé que pareil jour frémirait de se lever. La Mustang de Clarice Starling aborda en vrombissant la rampe d'accès au siège du Bureau des alcools, tabac et armes à feu de Massachusetts Avenue, un immeuble loué au révérend Sun Myung Moon dans l'intérêt de l'économie nationale. Le groupe d'intervention attendait à bord de trois véhicules, une vieille camionnette banalisée en tête, puis deux fourgons noirs des Special Weapons and Tactics Teams, les unités d'élite, moteurs au ralenti, mais prêts au départ dans la pénombre du garage. Après avoir attrapé une lourde sacoche, Starling rejoignit en courant la guimbarde dont les flancs d'un blanc sale étaient ornés de logos publicitaires au nom de Marcel's, la maison du crabe. Par la porte arrière dont les battants étaient grands ouverts, quatre hommes observaient son arrivée. Elle était mince dans son treillis et se mouvait sans effort malgré le poids de son équipement. Sa chevelure reflétait la lumière spectrale des néons. « Ah, ces femmes, toujours en retard !» persifla l'un d'eux, un représentant de la police du district de Columbia. John Brigham, l'agent spécial du BATF qui commandait l'opération, ne laissa pas passer la remarque. « Elle n'est pas en retard, non. J'ai attendu qu'on ait le tuyau pour la biper. Elle a dû mettre la gomme pour arriver de Quantico aussi vite. Hey, Starling, passe-moi ce sac. » Elle le salua rapidement en tapant dans sa main levée. « Salut, John. » Brigham lança un ordre à l'agent civil assis au volant dans une tenue débraillée. La porte arrière n'avait pas encore été refermée que la camionnette jaillissait dans la clarté d'un agréable après-midi d'automne. Vieille habituée des véhicules de surveillance, Clarice Starling se faufila sous le viseur du périscope pour s'asseoir au plus près du bloc de neige carbonique. Une masse de 75 kilos qui faisait office de climatiseur lorsqu'il fallait rester aux aguets à l'intérieur avec le moteur coupé. La camionnette, qui n'en était pas non plus à sa première mission, sentait la peur et la sueur, une odeur de ménagerie qu'aucun détergent ne pouvait faire disparaître. Elle avait revêtu nombre d'identités au cours de sa carrière. Les lettres fatiguées et ternies qui s'étalaient sur la carrosserie n'avaient qu'une demi-heure d'existence. Les impacts de balles rebouchées au mastic, par contre, étaient plus anciens. Les vitres des battants arrière permettaient la vision de l'intérieur seulement. À travers, Starling jetait parfois un coup d'œil aux deux fourgons noirs des SWAT qui les suivaient. Elle espérait seulement qu'il n'aurait pas à passer des heures enfermées dans ce réduit. Dès qu'elle tournait la tête vers les vitres, ses collègues masculins l'observaient à la dérobée. Clarice Starling, agent spécial du FBI, 32 ans. Elle avait toujours fait son âge et son âge lui était toujours bien allé. Même en treillis. Brigham tendit un bras pour attraper son carnet de notes sur le siège avant. « Comment se fait-il que tu te retrouves toujours dans ce genre de coup foireux, Starling ? » interrogea-t-il avec un sourire. « Parce que vous n'arrêtez pas de me demander. » Là, j'ai besoin de toi, oui. Mais quand je vois qu'on te fait porter des mandats d'arrêt dans des OP coups de poing, bon Dieu. Je ne veux pas me mêler, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui t'a sérieusement dans le nez à Buzzard's Point. Tu ferais mieux de venir bosser avec moi. Enfin, je te présente mes hommes. Agent Marcus Burke et John Eyre. Et voici le sergent Bolton, police du district. Une équipe d'intervention composite, résultat de la collaboration entre le BATF, les forces spéciales du DRD, le département de la répression des drogues, et le FBI. En l'occurrence, le fruit de la nécessité à une époque de restrictions budgétaires où même l'école centrale du FBI avait dû fermer ses portes par manque de moyens financiers. Burke et Eyre avaient la tête de l'emploi. Le flic local Bolton faisait penser à un huissier de justice, dans les 45 ans, adipeux sans consistance. Soucieux de paraître déterminé à lutter contre la drogue après avoir été lui-même mêlé à une affaire de stupéfiants, le maire de Washington tenait à ce que les services de police de sa ville retirent une partie des honneurs de toutes les opérations d'importance contre les narcotrafiquants dans la capitale. D'où la présence de Bolton. « La bande à Drumgo fait bouillir la marmite aujourd'hui », annonça Brigham. « Evelda Drumgo, je m'en doutais », fit Starling sans aucun enthousiasme. « Eh oui, elle a monté une usine à ice du côté de la criée de Feliciana sur la rive. Notre indic nous a prévenu qu'elle doit faire chauffer un max de cristaux aujourd'hui. Et elle a une réservation sur l'avion de Grand Caïman pour ce soir. Pas de temps à perdre, quoi. » La méthamphétamine cristallisée, argotiquement connue sous le nom d'ICE, est un hallucinogène dont les effets sont brefs mais foudroyants. C'est aussi une substance mortellement addictive.
La CAM, c'est l'affaire du DRD, poursuivit Brigham. Mais nous, Evelda, on la veut pour transport d'armes de la classe 3 entre États. Le mandat d'arrêt mentionne 2 mitraillettes Beretta et quelques MAC-10. Et elle sait où un paquet d'autres sont planqués. Je veux que tu t'occupes d'elle, Starling. Tu as déjà eu affaire à elle. Ces messieurs ici présents te couvriront.
Le travail facile pour nous, constata Bolton avec une évidente satisfaction.
Il me semble que tu ferais mieux de leur parler un peu d'Evelda, Starling, fit Brigham.
Elle attendit que la camionnette ait bruyamment dépassé 2 poids lourds avant d'obtempérer.
Elle va vous tenir tête, Evelda. Elle n'en a pas l'air, elle a été mannequin, mais c'est une coriace. Veuve de Dijon Drumgo, je l'ai arrêtée 2 fois pour association de malfaiteurs. La première, en compagnie de Dijon. Là, elle avait un 9 mm avec 3 chargeurs et un spray paralysant dans son sac. Plus un couteau à cran d'arrêt, un balisong, dans son soutien-gorge. Je ne sais pas comment elle est armée maintenant. La seconde fois, je lui ai demandé bien poliment de se rendre et elle a obéi. Mais alors qu'elle était en détention à Washington, elle a tué une co-détenue, une certaine Marsha Valentine, avec un manche de cuillère. Conclusion, avec elle, vous ne pouvez jamais savoir. Pas facile de lire sur ses traits. Le jury lui a reconnu la légitime défense ce coup-là. Elle s'est tirée de la première inculpation et elle a réussi à échapper à l'autre en plaidant coupable. Ils ont laissé tomber le port d'armes illégal parce qu'elle avait des enfants en bas âge et que son mari venait d'être descendu par un tireur non identifié sur Pleasant Avenue. Peut-être un règlement de compte des spliffs. Je vais encore lui demander de se rendre. J'espère qu'elle obéira. On va lui faire un show pour la convaincre. Mais écoutez-moi bien. Si nous sommes forcés de la maîtriser, j'aurai besoin d'aide pour de vrai. Dans ce cas, vous ne vous occupez plus de me couvrir par derrière. Vous devez lui mettre sérieusement la pression. En bref, messieurs, ne vous attendez pas à mater bien tranquille un combat à seins nus entre Evelda et moi. Il y avait eu un temps où Starling aurait pu avoir confiance en ses hommes. Il était clair qu'il n'appréciait pas qu'elle leur tienne pareil langage. Mais elle en avait trop vu pour s'en soucier.
Par l'intermédiaire de Drumgo, Evelda est liée au Crip de Treyhate, compléta Brigham. Notre informateur dit qu'elle a la protection des Crips, lesquels se réservent la côte. Ils la couvrent contre les spliffs, essentiellement. Je ne sais pas comment ils vont réagir quand ils verront que c'est nous. Lorsqu'ils peuvent éviter, ils ne cherchent pas la bagarre avec les autorités.
Vous devez aussi savoir qu'Evelda est séropositive, reprit Starling. C'est Dijon qui lui a refilé le virus avec une seringue usagée. Elle a appris ça en prison et elle a complètement flippé. C'est ce jour-là qu'elle a tué Marsha Valentine et elle s'est battue avec les matons. Si elle n'est pas armée mais résiste quand même, attendez-vous à recevoir n'importe quelle sécrétion qu'elle pourra vous balancer dessus. Elle va cracher, elle va mordre, elle est capable de vous uriner ou de vous déféquer dessus si vous tentez une fouille au corps, donc les gants et les masques sont plus que réglementaires. Quand vous la ferez monter dans le fourgon, méfiez-vous si vous posez une main sur sa tête, au cas où elle aurait une aiguille dans les cheveux. Et menottez-lui les chevilles aussi. Burke et Eyre avaient pris une expression soucieuse. Bolton, lui, s'était renfrogné. De son menton maflu, il désigna l'arme que Starling portait à la ceinture, un Colt 45 modèle officiel dont la crosse était munie d'une bande d'adhésif antidérapant et qui était glissée dans un fourreau d'Indien yaki à sa hanche droite.
« Vous vous promenez tout le temps avec ce machin déjà armé ?» demanda-t-il d'un ton agressif.
« Armé et verrouillé jour et nuit, oui, monsieur. »«
Mais c'est dangereux.
Venez faire un tour sur la piste de tir et je vous expliquerai, sergent. »«
Bolton, » intervint Brigham.
« J'ai entraîné Starling quand elle a remporté le championnat de tir de combat tout service 3 années de suite. Ne vous faites pas de soucis pour son arme. »«
Dis, Starling, comment ils t'ont surnommé déjà les cow-boys du groupe anti-prise d'otages quand tu les as battus à plate couture ?» Annie Oakley, c'est ça ?
Poison Oakley, corrigea-t-elle en détournant le regard vers la vitre. Au milieu de tous ces hommes, elle se sentait épiée et isolée dans l'habitacle qui empestait le bouc, l'eau de toilette bon marché du genre brut ou Old Spice, la sueur et le cuir. Elle eut une bouffée d'angoisse qui avait le goût d'une pièce de monnaie sous sa langue. Une série d'images fusèrent dans son esprit. Son père, fleurant bon le tabac et le savon, en train de peler une orange avec son couteau de poche, le bout de la lame cassée en carré, puis partageant le fruit avec elle dans la cuisine.